Il est midi sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et nous commençons cette émission par une chronique livre et papier par Joseph.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un roman autobiographique publié en 2015 par le fabuleux Eric Emmanuel Schmidt. Dans cette œuvre, Eric Emmanuel Schmidt entreprend à 28 ans une randonnée dans le désert du Grand Sud algérien. Il nous narre toute son épopée de l'arrivée à Taman Rasset jusqu'à ce qu'il se perde dans l'immensité du Hoggar. Au cours de cette nuit glaciale, sans eau ni vivre, sans être vêtu pour affronter l'extrême froideur présente dans le désert, le jeune agrégé de philosophie cherche sa voie. Non pas sa voie professionnelle brillante, mais plus précisément sa voie religieuse, c'est-à-dire sa foi. À travers de multiples questionnements, le jeune agnostique trouvera durant cette nuit glaciale une force qui l'habitera et lui permettra de trouver le chemin pour retourner au campement où son guide Abigur et son ami Gérard se désolaient de son égarement. Eric Emmanuel Schmidt parvient à personnifier la relation entre la foi et la science dans son écrit. Ici, la science est incarnée par un géologue et un astrologue, et la foi incarnée par une ophtalmologue qui veut voir dans l'ordonnancement des choses l'empreinte de l'existence de Dieu. L'écriture de Schmidt nous envoûte et nous transporte. Nous ressentons au fur et à mesure de l'avancement dans le texte, la chaleur étouffante du désert, le dynamisme de Taman Rasset, la froideur extrême de la nuit saharienne et la sérénité de l'auteur durant son exil de quelques heures. L'essai se termine sur un épilogue remarquable sur la réponse que chaque honnête homme peut apporter à la question de l'existence de Dieu et sur la quête de chacun en ce bas monde. À cela s'ajoutent, tout au long du livre, des pages splendides sur le désert, le voyage, le firmament et les hommes. Brillant et sincère, n'avez-vous pas envie de goûter à l'atmosphère si particulière du désert et de succomber à ces nuits de feu ?
C'était la chronique livre et papier de Joseph. Place maintenant à Corinne Meyer qui signe, en cette rentrée littéraire, son premier roman, À la conquête de l'homme rouge. Nous écoutons donc une interview téléphonique de Corinne Meyer. Bonjour Corinne Meyer.
Bonjour.
Alors Corinne Meyer, merci à vous en tout cas d'accepter cette interview, de répondre à nos questions. Avant de parler de votre nouveau roman, la conquête de l'homme rouge, bien sûr, qui est un grand succès de cette rentrée littéraire, peut-être que, si vous le voulez bien, on peut dire deux mots sur la personne que vous êtes. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une intellectuelle polymorphe, puisque vous êtes à la fois psychanalyste, économiste, historienne aussi? Comment vous définiriez vous-même?
Alors, moi, je me vois comme un chercheur, plus exactement comme une chercheuse. Simplement, évidemment, je suis une chercheuse sans poste et sans assignation, puisque je m'empare de certains sujets qui m'intéressent et j'essaie d'en faire quelque chose de différent, voire de nouveau, si possible. Donc, j'utilise à cette fin toutes les ressources dont je dispose et puis celles dont disposent les autres, puisque on peut naviguer à son aise dans le grand ventre du savoir.
Alors,
et du non-savoir, d'ailleurs.
Aussi, qu'est-ce qui intéresse Corinne Meyer, d'ailleurs? Comment vous, quel lien vous faites entre ces disciplines qui, de l'extérieur, pourraient sembler assez différentes? Quel lien vous faites, vous, entre l'économie et la psychanalyse, par exemple?
Alors, le lien que je fais, il est que ce sont des savoirs disparates qui ont des logiques internes, hein, mais dont certains éléments disparates aident à comprendre le monde d'aujourd'hui. Et ça m'intéresse énormément. Donc ça m'a beaucoup mobilisé depuis une quinzaine d'années. Avant, je faisais d'autres choses, mais dans une logique aussi, je pense, de système, en fait, essayer de comprendre quelque chose de façon logique, puisque au fond, c'est quand même ça la méthode de la psychanalyse, c'est ça. Donc je l'utilise pour essayer de comprendre des problèmes de société. Et puis je cherche à en rire aussi, parce que je crois que c'est important. On vit dans un monde qui est en effet complexe et absurde, et qui est pour moi en tout cas profondément comique. Donc j'essaie de faire des choses amusantes avec ça. avec aussi l'observation de la vie comme elle vient, de la vie quotidienne, de choses que j'entends, etc., puisque j'utilise beaucoup de choses vécues pour essayer d'en faire d'en faire apparaître en fait l'absurdité et les questions. Donc j'utilise tout finalement, j'utilise aussi pas mal de choses que je glane ici et là, qui peuvent sembler des rebuts en quelque sorte, des choses entendues, glanées dans les cafés, au fil des lectures, enfin j'utilise tout finalement.
Voilà, et s'il y a peut-être un lien qu'on peut faire entre vos activités multiples et variées, est-ce que ce serait pas le langage, parce que vous intéressez aussi de près aux divers jargons, qu'ils soient professionnels ou alors même les codes langagiers qu'on peut trouver dans les différents groupes sociaux, peut-être aussi que la psychanalyse a un rapport au langage. Est-ce que c'est pas ça le lien qu'on pourrait, si absolument on a besoin d'en trouver un entre vous?
Oui, alors c'est vrai qu'effectivement j'essaie d'écouter le plus possible et puis je me gargarise de certains jargons, et notamment tout le jargon du management qui a maintenant imprégné toute la société. Et en effet, ça m'inspire beaucoup. Et c'est vrai que le langage qui soit, enfin je dirais collectif, puisque maintenant la langue du management, on baigne dedans, mais ça peut être des langues de certains groupes aussi, de certaines catégories sociales, enfin comment les gens s'expriment, comment ils parlent de quelque chose aussi, ça c'est très intéressant, puisque ça gouverne des constructions sociales finalement, comme celle de l'enfant par exemple. Et ça m'intéresse énormément. Et tout ça contribue en effet à ma palette et ça la nourrit.
Voilà, et d'ailleurs on trouve aussi dans vos ouvrages antérieurs, vous avez proposé des contenus sur ces différents langages, peut-être même absurdes, surtout dans le monde du travail. Hein. Je pense par exemple... au manuel, voilà, le livre sur la paresse, ou le manuel du parfait petit arriviste. Est-ce que vous en
parlez? Oui, ben oui, en effet, c'est vrai qu'on s'en rend plus compte, mais il faut essayer de s'en rendre compte quand même, parce qu'on baigne dedans, et c'est vrai qu'on nage vraiment dans un océan de jargon, en fait, on vit dans un monde complètement jargonnant. Il en sort tous les jours de nouveau, en fait, que ce soit dans politique, dans le journalisme, enfin il y a des tics de langage, donc c'est toujours intéressant d'essayer de les repérer pour s'en servir. Donc je prends des notes intérieurement, donc il y a aussi des gens qui m'alimentent en m'envoyant des petits mails par exemple, ou en me signalant certains mots nouveaux dans leur usage en tout cas. Et oui, c'est passionnant. C'est vrai que c'est la langue et les langues, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'écouter pour pas se laisser faire déjà. Enfin, je pense que c'est un exercice salutaire, puisqu'on en est moins. Je pense qu'on est moins dupe si on essaie de repérer les tics contemporains ou les usages.
Est-ce que ça rend malade l'abus de formules creuses ou dont le sens est incertain?
Oui, je pense. Enfin, ça peut effectivement. Je pense que il faut vraiment essayer de s'en distancier, puis essayer de comprendre pourquoi c'est utilisé, pourquoi il y a tel mot et qu'est-ce que ça recouvre. Donc oui, ça peut rendre malade effectivement. Je pense que oui, ça, certainement. Je pense que ça explique certainement pas mal de pathologies modernes. Enfin. Le stress, le burn-out et ce genre de choses, oui. Et puis les paradoxes que ça recouvre, en fait, toutes ces choses qu'on considère comme évidentes. C'est toujours très intéressant. Oui.
Donc dans vos ouvrages précédents, j'ai l'impression que vous aviez choisi, en tout cas plusieurs fois, la forme du manuel. Ça aussi, est-ce que c'est l'idée d'utiliser quelque chose un peu à contre-emploi, de façon détournée, utiliser une forme de...
Oui, alors j'adore les détournements, j'adore les pastiches, les reprises décalées de choses existantes. J'aime beaucoup ça, oui. Oui, c'est toujours très amusant de faire des faux manuels, puisque le manuel est censé nous aider en fait à être conforme. Et moi, j'aimerais, enfin, je tente de faire pour un certain nombre de mes livres des manuels qui vont à contre-emploi, en fait, qui servent au contraire à ne pas se conformer, en fait, et à ne pas faire ce qui est attendu. Donc, j'aime bien retourner les cadres existants pour les remplir autrement.
Là, d'ailleurs, on voit aussi sur votre site, Corinne Meyer, là, donc on retrouve vos ouvrages, et il y a aussi un onglet qui rassemble les livres anti-France et les livres anti-FN. Et ça, alors, pourquoi vous avez choisi cette catégorisation ?
Parce que, en fait, il y a un certain nombre de sujets transversaux dans certains de mes livres, et donc c'est amusant de les classer autrement. Effectivement, on peut les lire de différentes façons, donc c'est vrai que le sujet anti-France m'intéresse beaucoup, parce que les Français sont très nationalistes sans s'en rendre compte, et c'est vraiment un truc inconscient chez eux. Et ils n'aiment pas du tout qu'on critique la France, alors que c'est admis dans d'autres pays. Enfin, aux États-Unis, il y a Noam Chomsky, en Suisse, il y a Jean Ziegler, enfin, il y a un certain nombre de gens comme ça. En Israël, il y a aussi un historien comme ça qui fait un travail très intéressant. Mais en France, on peut pas vraiment, enfin, il n'y a personne qui se revendique comme anti-France, sauf certains, certains azouts de banlieue, mais et je trouve que c'est intéressant de critiquer le pays et puis ses bases idéologiques, en fait, hein, la République, la laïcité, on a l'impression que là c'est absolument sacré. Donc dans plusieurs de mes ouvrages, c'est un des sujets. Enfin, il y en a un où c'est le sujet frontal, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Ciao la France, 40 raisons de quitter votre pays, en encourageant donc les Français à immigrer, ce que d'ailleurs ils font massivement, enfin pas massivement, mais ils font quand même de façon régulière et assez solide, et que la plupart des jeunes Français aimeraient vivre à l'étranger. Donc je suis pas la seule je suis peut-être la seule à l'écrire, mais en tout cas beaucoup le pratiquent.
Est-ce que ça vous arrive de fâcher des gens, Corinne Meyer ?
Oh, plein de fois, oui. Oui, ça énerve bizarrement. C'est d'ailleurs assez curieux parce qu'il n'y a pas d'attaque personnelle dans ce que j'écris. Mais il y a des gens qui se sentent effectivement visés directement, curieusement. Ils ont l'impression que leur mission, c'est de défendre le travail, c'est de défendre la sacralisation des enfants et de la France. Donc ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, en fait, qu'ils ne sont pas forcément les gardiens de quelque chose, en fait. Et donc oui, ça énerve. J'ai eu beaucoup de mauvais articles, j'ai eu beaucoup de critiques négatives, de gens que ça a agacé. Ça fait partie du métier. Hein.
On peut rappeler aussi qu'un de vos faits d'armes, c'était le livre No Kid, donc 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. Alors là, en effet, peut-être que ça a dû froisser certaines personnes.
Ça, effectivement, l'affaire de l'enfant, c'est un truc passionnant, hein, quand même. D'ailleurs, je compte en remettre une couche un jour, parce que je trouve que c'est tellement accablant, tout ce discours sur les enfants qui sont notre avenir, qui vont reconstruire le monde, qui vont le sauver, qui vont le transformer. Tout le discours sur les enfants et les jeunes est quand même assez grotesque. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup à dire sur la manière dont on construit l'enfant, dans ce qu'on en fait aussi, parce que ça, c'est aussi la conséquence. Il y a des choses pratiques qui en découlent, et notamment tous les dogmes de l'éducation dite positive, qui consistent à ne jamais heurter l'enfant, à l'entourer de bienveillance, de gentillesse, à l'encourager sans arrêt, etc. Et qui donnent, à mon sens, pour certains d'entre eux, des résultats assez discutables. Mais c'est quand même très intéressant, tout ça. Donc c'est des phénomènes qu'on peut aussi observer autour de soi, hein, pour les gens qu'on connaît, qui ont des enfants, et puis lire aussi des choses sur l'éducation, c'est intéressant. C'est-à-dire, je pense qu'on a complètement refoulé le message de Freud, par exemple, qui est quand même très ambivalent, qui est quand même très noir. Oedipe, c'est quand même... qui est quand même donc une des théories centrales chez lui, c'est quand même quelqu'un qui tue son père et qui veut coucher avec sa mère, mais ça c'est plus du tout audible aujourd'hui, enfin qu'on est vraiment dans une sorte de rêverie rousseauiste où l'enfant est bon, il est gentil, il est beau. Et donc c'est très intéressant de s'attaquer à l'enfant et puis de s'attaquer aussi au mythe de l'enfant qui rend heureux, parce que ça implique quand même beaucoup de choses de la part des parents qui, bien souvent, et ça des études le montrent, des études d'ailleurs qui sont presque toutes étrangères, hein, parce qu'en France, l'enfant rend forcément heureux, donc on ne met pas nos statisticiens sur des sujets aussi triviaux, et qui montrent que beaucoup de parents sont stressés, qui sont récemment émergé la notion de burn-out parental, parce que c'est absolument épuisant et que ça implique quand même des choix de vie qui sont pas forcément très intéressants, en fait. Donc oui, la question de l'enfant, elle est passionnante.
Voilà, alors peut-être qu'on peut en venir à ce fameux roman. Alors c'est votre premier roman, je crois ?
Oui, c'est mon premier roman. J'avais jamais tenté la forme romanesque, et puis là je me suis dit tiens, pour ce sujet-là, ça s'impose, puisque je pense qu'autrement j'aurais pas pu poser des questions ou dire des choses comme je le voulais, donc je me suis essayée à la forme romanesque, qui d'ailleurs a été assez difficile parce que j'ai trouvé que c'était énormément de travail. J'avais jamais essayé ce genre d'écriture. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour construire ce que je voulais. Donc voilà, c'est le résultat de plusieurs années d'efforts et de réflexion sur la question des classes sociales, du fossé droite-gauche et de la circulation possible et éventuelle entre les différentes couches de la société. Puisque j'ai imaginé une héroïne qui vient d'un milieu très privilégié, mais qui est quand même assez pauvre du fait de son métier d'écriture, puisque comme chacun sait, l'écriture n'enrichit pas. Et donc elle est déjà divisée par ça, en fait, par ces deux choses. Et elle va tomber amoureuse, elle va se prendre de passion pour un jeune activiste italien, qui est un ancien poseur de bombes, et elle va vouloir, en une sorte de geste romanesque, le séduire à tout prix. Sachant que la vie jusqu'à présent était relativement facile pour elle, puisqu'elle a quand même plein d'atouts dans son jeu, mais elle n'avait jamais essayé de franchir le fossé des classes sociales, et donc elle va tout faire pour le séduire. Et elle va, le lecteur va circuler avec elle dans la société, puisque elle va circuler dans différents endroits et se trouver confrontée à des situations variées. Et la question se pose pour elle de savoir si elle va réussir à s'engauchiser, donc à devenir de gauche pour être conforme aux attentes de son coup de foudre.
Voilà, donc de l'opportunisme politique.
Opportunisme, oui et non, parce que je pense qu'elle est, de par son éducation, elle a une éducation un peu spéciale, mais qui a existé dans le passé, de gens qui ont été élevés dans une certaine abondance matérielle, mais par des gens très austères qui l'ont élevée dans l'idéal communiste. Donc c'est aussi pour elle une sorte de retour au passé et à ses racines. Et elle va être en effet tout le temps hésitante entre les bonnes choses auxquelles elle est habituée, puisqu'elle adore les bonnes choses, elle adore manger. Et le fait que l'idéal communiste et la révolution sont des idéaux austères, et donc avec toujours cette hésitation comme ça, ce qui, à mon avis, est la source du comique, c'est-à-dire elle a rendez-vous avec son aimé, et puis elle se dit, ben, finalement, il y a quand même un très bon restaurant au coin de la rue, j'ai repéré sur Internet qu'il est très bien coté par les consommateurs, ou alors elle est passée devant et elle a repéré le menu midi, puis elle se dit, tiens, je vais quand même l'essayer avant. Et donc il y a toujours cette hésitation comme ça entre l'idéal et puis des choses matérielles, puisque la nourriture pour elle est une forme d'addiction, donc il faut absolument qu'elle mange des bonnes choses et qu'elle boive des bonnes choses aussi. Et donc c'est ça, à mon avis, je pense que le comique naît de cette hésitation constante entre les deux rives, finalement, les deux rives du monde. Je me suis pas mal inspirée, il y a un roman, en fait j'aime bien les romans anglo-saxons qui sont, je trouve, beaucoup plus drôles en fait que les romans français d'aujourd'hui. Les Anglais notamment sont très bons pour la description des classes sociales et des milieux et des ambiances. Et dans les Américains, il y a aussi des choses qui sont très intéressantes sur ces questions, qui ont longtemps été négligées, je trouve, par les Français, en tout cas dans la période récente. Et il y a un livre que j'adore, en fait, qui s'appelle « Les Lamentations du Prépuce » de Shalom Auslander. Et c'est l'histoire d'un juif religieux qui d'un coup il adore en fait tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est finalement interdit. Et je me suis beaucoup inspirée de ce personnage qui est tout le temps en tension comme ça entre deux choses qui sont pas conciliables. Et c'est ça qui m'a intéressée dans ce... Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu ça, parce que je trouve en fait ce genre de situation très drôle.
Alors pour revenir sur tout ce que vous venez de dire, Corinne Maillard, c'est vrai que dans cet ouvrage, vous portez aussi une attention particulière sur tout ce qui fait les marqueurs sociaux. On voit par exemple le physique, donc on a détaillé à travers les différents personnages, qu'est-ce qui fait qu'on a un physique de bourgeois ou un physique de classe populaire. On voit par exemple votre héroïne, Corinne Z, donc elle raconte qu'elle est plutôt blonde, plutôt très mince, voilà, qu'elle a des jambes qui ressemblent à des haricots verts dans un jean slim, et face à elle, dans une de ses formations activiste, là où elle tente de devenir de gauche, elle rencontre une jeune femme qui manifestement vient d'un autre milieu social, donc elle la décrit comme une jeune femme d'origine arabe, hein, voilà, qui est plutôt boudinée dans des fringues en stretch. Donc ça, est-ce que c'est toujours juste ce genre de critères physiques? Est-ce que manifestement, quand on est dans la bourgeoisie, on est plutôt blond et maigre, et voilà, est-ce que c'est vrai?
Alors heureusement c'est pas toujours vrai, mais il n'empêche que en effet il y a quand même des marqueurs sociaux qui font que dans certains milieux sociaux on peut difficilement se permettre d'être gros. Vous regardez les gens qui nous gouvernent ou qui dirigent le monde à la tête des grosses boîtes, la plupart sont minces. Les espèces de shows là dans la Silicon Valley où il y a des gens qui dirigent des start-up. La plupart de ces dirigeants sont quand même des gens qui sont minces et qui font du sport, etc. Mais cela dit, l'idée, ce n'est pas non plus de faire des caricatures, c'est juste de prélever des choses sur la réalité pour s'amuser de ces marqueurs sociaux. Mais de fait, oui, ils existent, de même que le prénom, c'est un marqueur social très fort. D'ailleurs, je me lâche vraiment là-dessus, parce qu'effectivement, on ne choisit pas les mêmes prénoms dans un milieu social, dans tous les milieux sociaux. Enfin, il y a des grosses différences de choix, en fait, de choix dans finalement tout. Donc, les classes sociales, enfin, surtout d'ailleurs, les classes sociales moyennes et aisées essaient de se différencier des classes qui sont juste proches d'elles pour faire différemment. Et en effet, ça m'intéresse pas mal, parce que c'est assez intéressant d'y réfléchir et puis de s'en amuser. Mais l'idée, c'est pas de dire tout le monde fait comme ça, mais c'est juste de décrire en fait une certaine réalité. Mais bien sûr qu'il y a des pauvres qui sont minces et des riches qui sont gros. Mais cela dit, statistiquement, c'est pas exactement comme ça.
Voilà, mais c'est aussi de dire que finalement, les classes sociales, elles se traduisent sur les corps. En fait,
il y a une traduction
physique.
Oui, elles se traduisent sur les corps, sur la façon de s'exprimer, sur beaucoup de choses. Oui, c'est quand même quelque chose de passionnant, cette affaire de classe sociale.
Voilà, par exemple, je vois dans le livre, là, je cite « Je veille au grain, ma sveltesse constitue un précieux capital social. L'obésité est une maladie honteuse chez les riches. Tant que mes jambes ressembleront à des haricots verts dans mon slim ultra serré, je serai la reine de la nuit. » Voilà, donc là, c'est Corinne Z, hein, c'est votre héroïne qui parle.
Et puis, elle s'en... Mais je pense qu'elle s'en rend compte, donc c'est ça qui est drôle aussi, en fait. Je pense qu'elle joue pas mal là-dessus, et c'est ce que j'ai voulu faire. C'est pas quelqu'un qui est au premier degré du tout. Et personnellement, je l'ai construite parce qu'elle m'amuse beaucoup, en fait. Je la trouve marrante, quoi. Elle a le côté un peu déjanté, excentrique, snob... Qui fait rire, je pense. Donc, mais en effet, elle s'est parfaitement aperçue qu'il fallait absolument être mince pour être passe-partout dans certains milieux.
Là, et donc le rapport à la nourriture, hein, parce qu'on trouve aussi d'un côté comment dire, donc ce que vous disiez, l'héroïne qui adore les choses très fines, très raffinées, la nourriture haut de gamme, et puis on a en face, par exemple, le produit, le Nutella, enfin, c'est vraiment l'incarnation de la malbouffe, et curieusement, un des seuls qui mange mal aussi, c'est un autre personnage qui s'appelle Cerise, enfin, qui est surnommé Cerise, parce que c'est la cerise sur le gâteau, voilà, un garçon adopté qui lui mange n'importe quoi aussi. Alors ça, est-ce que le...
Oui, mais parce qu'il est, il est très jeune, en fait, donc ça n'a aucune importance. Parce qu'en fait, à 20 ans, on peut manger des pizzas sans grossir, mais je pense que très vite, Cerise sera rattrapée par le biotope familial et qu'on peut imaginer quand il aura fini son école de commerce et qu'il se consacrera au commerce multipolaire, et il fera attention à sa ligne.
Là, ce que ce livre montre aussi, c'est la relativité en fait des valeurs, parce qu'une chose, par exemple, Corinne Z qui a habité à Emery, il y a des contextes où c'est la honte d'avoir habité à cet endroit-là, et il y en a d'autres où au contraire, elle brandit ça comme une carte de visite populaire. Alors en fait, c'est cette...
Oui, parce que tel qu'il est décrit, donc Emery dans le livre, c'est un endroit qui est en région parisienne et qui n'est pas particulièrement intéressant et qui est surtout connu pour sa prison. Donc évidemment, elle, étant jeune, elle explique qu'elle le cachait en fait à ses copains d'école. Enfin ceux de quand elle a fait ses études, mais que quand elle se trouve dans un milieu populaire, au contraire elle le brandit, puisque ça peut servir finalement de carte d'entrée en fait. Alors que si elle disait qu'elle venait de Neuilly, par exemple, ça pourrait être gênant pour ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire s'engauchiser et puis rencontrer des gens d'une autre classe sociale. Donc c'est effectivement le jeu sur cet endroit que sa sœur et elle, sa sœur étant une bourgeoise pure jus par contre, qui elle veut pas du tout, est pas du tout intéressée par les codes, par les comportements des gens d'une autre classe sociale et qui ne pense qu'à une chose, c'est à s'enrichir, et donc étant jeune, considéraient que c'était un peu une tâche sur leur CV.
Et alors un personnage qui s'appelle Corinne, quand on a un auteur qui s'appelle Corinne, simple coïncidence?
Alors moi mon idée cette fille n'est pas moi, mais d'abord je l'aime beaucoup, et puis je pense qu'en fait son espèce d'hésitation, elle nous est commune à presque tous. Je pense qu'on est plus ou moins tous comme elle, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler comme moi, parce que je crois que, au fond, enfin, pour beaucoup d'entre nous, évidemment pas les défavorisés ou les déshérités, mais on est quand même douillettement installé dans le monde tel qu'il est. On est tous à se demander, l'heure de l'apéro, ça va être agréable, qu'est-ce qu'on boit avec des amis, etc. Et en même temps, donc le fameux en même temps macronien qu'on peut utiliser ailleurs, on se dit quand même là, la société est quand même mal barrée, qu'il y a de plus en plus d'inégalités, qu'il y a une crise climatique majeure qui se profile à l'horizon, dans laquelle on est déjà d'ailleurs. Et donc, on est tous très mal à l'aise avec ça, en se disant, bah oui, on est bien confortable, mais... Il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose, il faudrait quand même qu'on ait un idéal, qu'on croit à quelque chose et qu'on se bouge les fesses pour que ça change. Et donc je pense que c'est ça que j'ai voulu montrer à travers cette jeune femme, cette espèce de tension entre les deux, parce que je pense qu'elle nous est commune, on est vraiment très nombreux aujourd'hui, vraiment ici et maintenant, à la ressentir. C'est pour ça qu'elle porte mon nom en fait, parce que je pense que je suis vraiment comme elle sur ce point. À me dire, bon, faudrait quand même changer le monde. Et puis de l'autre côté, à me dire, bon, bah, le petit blanc est au frais. Est-ce qu'on le boit avant les barricades ou après? Et qu'est-ce qu'on va manger une fois qu'on sera là-bas? Enfin, donc c'est un peu ça. Ça explique pourquoi je l'ai prénommé comme moi. Ce n'est donc pas autobiographique. En revanche, c'est vrai que ce qui est autobiographique, c'est certaines descriptions de milieux sociaux que j'ai évidemment, il y a pas mal de choses que j'ai vécues en fait, notamment le salon du livre de Turin, la soirée à Montreuil, le dîner, l'espèce de pince-fesse très chic chez les riches, tout ça, j'ai vécu des scènes exactement similaires à ce que je décris, et je m'en suis servi de toile de fond, puisque forcément c'est très utile d'avoir traîné ici et là dans différents endroits et puis d'en avoir fait mon miel.
Voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée de malheur, enfin, comment dire, de malheur drôle dans ce livre, parce qu'en fait, malgré tous ces efforts, mais voilà, on ne naît pas de gauche, on le devient, admettons, mais même pas, ça marche même pas en fait. Donc finalement,
marche même pas, mais ce qui marche tout de même, c'est qu'elle garde de cette histoire, bon, qui est effectivement une histoire de drap gratté hein, aussi, elle garde quand même de cette histoire l'idée que il faudrait quand même faire quelque chose. Donc la dernière phrase, c'est finalement j'ai encore un peu faim, ça peut s'entendre qu'effectivement bon, elle va se taper la cloche ailleurs, mais c'est aussi le fait qu'il lui reste de l'appétit pour faire la révolution ou pour changer le monde. Donc elle en garde quand même, elle en tire quelque chose, elle en sort transformée, puisque c'est quand même le pari romanesque, c'est quand même que l'héroïne ou le héros sort transformé d'une histoire, même si les choses tournent pas comme il ou elle l'attend. Et je pense que c'est quand même le cas. Je pense qu'il est... Oui, on peut... Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même... Enfin, la manière dont elle voit, en fait, la scène finale, c'est-à-dire où elle est dans un pince-fesse avec des gens très aisés et puis un cuisinier très branché, elle est quand même très ironique, en fait. Hein, je pense qu'elle voit les choses différemment suite à cette rencontre qui l'aura fait se transformer personnellement.
Voilà, mais en fait, si elle a cette possibilité aussi d'être un caméléon, est-ce que c'est pas justement parce qu'elle est née, entre guillemets, du bon côté? Est-ce qu'elle aurait ce même recul et cette même capacité à se jouer des codes et à réussir à s'intégrer à peu près partout si elle n'était pas née du côté plus aisé?
C'est une bonne question, ça. Et ça, j'ai pas de réponse, et je pense que dans le livre, il n'y en a pas non plus. Je sais pas. C'est possible, effectivement, parce que, en effet, tout ce qui est second degré, qui est finalement une forme de langue, des gens qui viennent de bons milieux, finalement, qui pratiquent, enfin, de bons milieux, ou de milieux suffisamment, ouverts, ou un minimum éduqués, avec un minimum de moyens, c'est vrai que c'est devenu notre langue, en fait, le second degré. Et je ne sais pas si, en effet, quand on est privé d'un certain nombre de possibilités, de chances, on peut la parler couramment. Donc c'est une question et elle reste ouverte parce que je n'ai pas de réponse à ça.
Et alors il y a aussi autre chose, parce qu'à un moment, là, je crois que c'est justement dans le... Non, là, c'est dans la formation pour devenir de gauche, là, le stage militant. Ou à un moment,
Oui, enfin, elle le prend comme une formation pour devenir de gauche, mais en fait, c'est plutôt c'est un stage militant pour apprendre à s'exprimer, à vrai dire, plutôt, en mettre en forme ses idées, se présenter et défendre certaines idées. Mais elle s'inscrit pour ça, elle s'inscrit donc pour d'autres raisons que les militants qui sont présents.
Oui, qui eux sont là vraiment de façon très sincère, hein. Ils viennent vraiment pour se former à la prise de parole en public ou des choses comme ça.
Oui, c'est ça, tout à fait, oui.
Et en fait, il y a un moment, il y a une conversation de mémoire où il est question de la Palestine, ou alors c'est au dîner chic, je ne sais plus, non, ça doit être... Et en fait, où la Corinne Z s'ingénie à faire une allusion à Israël en disant qu'elle a lâché une boule puante idéologique. Et donc ça, c'est...
Oui, parce qu'il y a des sujets qui fâchent dans tous les milieux. Hein. Mais c'est vrai qu'à gauche, c'est vrai que la question d'Israël provoque généralement, je l'ai observé, parce que, bon, vous en doutez, en fait, j'aime bien de temps en temps, quand je suis chez des gens, que ce soit, ou avec des gens qui soient de gauche ou de droite, j'aime bien le jouer un petit peu provoque, comme en héroïne, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui fâchent, et que certaines phrases glissées... glisser ici et là peuvent évidemment susciter soit des débats, soit des malentendus, soit des froncements de sourcils, et c'est ce qu'elle fait effectivement, puisque en effet elle se débrouille pour glisser une phrase pour Israël en sous-entendant qu'ils sont excellents pour pirater des réseaux informatiques, et que certains militants décidés à lutter contre le capitalisme pourraient s'inspirer de leur méthode. Et donc évidemment, c'est pas exactement ce que certains gauchistes ont envie d'entendre. puisque forcément Israël est mal perçu chez certains, encore une fois, hein, mais c'est pas vraiment la référence à amener dans une discussion décontractée. Et donc c'est pour ça qu'elle s'en sert parce qu'elle est effectivement elle est assez provoque et puis assez toujours prompte à sortir la phrase qu'il faut pas aussi. Donc c'est aussi ça qui est drôle, c'est l'espèce de contre-emploi permanent. Et le fait de jouer comme ça sur certaines références pour dévier finalement les attentes des autres.
Mais alors en plus, il me semble que ce personnage, Corinne Z, est aussi de culture juive, il me semble. Hein, que,
et... Oui, effectivement, oui. Ben oui, parce que ça m'a semblé expliquer. Bon, on aurait pu trouver un autre référent familial, mais effectivement, chez les juifs ashkénazes, il y a quand même une non-tradition en fait d'adhésion aux idées communistes, aux idées révolutionnaires. D'ailleurs, dans l'entourage de Lénine, il y avait beaucoup de juifs, donc parce que ça s'explique pour des raisons historiques. Et donc, effectivement, son père est juif, et c'est quelqu'un, dans le roman, qui a développé de façon importante le commerce avec l'Union soviétique, et donc qui s'est beaucoup enrichi dans le commerce, effectivement, avec Moscou. Qui sont des personnages qui ont vraiment existé. Donc je me suis servi, effectivement, il y a eu des hommes d'affaires français notamment, qui n'étaient pas forcément juifs d'ailleurs, certains ne l'étaient, d'autres pas, et qui ont effectivement pratiqué donc, cette forme de commerce est-ouest. Je pense à Jean-Baptiste Dumain, qui était appelé le milliardaire rouge. Et je me suis pas mal inspirée de lui pour construire en tout cas le personnage du père, sachant que quand même là, en l'occurrence, sont des gens qui sont quand même plus austères que le fameux milliardaire rouge qui était quand même connu pour aimer la bonne chair et les bonnes choses. Alors que là, dans mon livre, j'ai choisi un personnage beaucoup plus terne en fait, beaucoup plus austère volontairement.
Mais alors aussi ce décalage dans l'humour, dans l'attitude, est-ce que ça se rapproche aussi de ce qu'on appelle l'humour juif, ce rapport au monde ?
Oui, j'aime beaucoup, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime les romans américains, d'ailleurs juifs ou pas juifs, peu importe, hein, mais en effet, chez les Américains, il existe, je mets entre guillemets, l'humour juif. Je pense que oui, j'aime beaucoup ce genre de choses, en fait, genre d'humour. Et je m'en suis pas mal inspirée pour ce livre. Ça me plaît beaucoup, c'est-à-dire cette espèce d'autodérision et puis de décalage, de choses un peu absurdes, un peu noires aussi, que ça charrie. Cela dit, je pense que l'humour juif, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faudrait mieux définir. Mais enfin bon, admettons qu'il existe, puisque quand même, en effet, dans l'écrivain dont je parlais tout à l'heure, donc Shalom Auslander, ou pour prendre le évidemment beaucoup plus connu Philippe Roth, et ce genre de référence, on peut considérer qu'il y a quand même des liens transversaux entre tous ces auteurs, avec quelque chose d'un peu de drôle et drôle et puis de très d'un peu piquant comme ça, avec une forte autodérision je me suis pas mal inspirée de ça, oui. Donc je sais pas s'il existe l'humour juif en France, mais en tout cas j'ai essayé en effet de faire de l'humour juif.
Bon ben on verra si on vous taxe d'appropriation culturelle ou pas, hein, je sais pas.
Ah oui, je suis sûrement dominée, hein, effectivement, mais j'aime tellement les romans américains que je me sens colonisée en fait.
Et alors aussi, il y a quand même une scène d'anthologie, il y en a plein dans ce livre, et c'est justement, alors je cite seulement deux répliques, donc il y a Marco, l'homme de gauche, l'homme rouge justement, que tente de séduire Corinne Z, voilà, qui lui dit au moment où il se quitte « j'aime quand c'est impossible » et elle de lui répondre « j'aime avoir la bouche pleine ». Est-ce que ça résume pas les positions en fait partitionner la société entre bourgeois et peuple, est-ce que ça résume pas en fait ces deux phrases?
Oui, alors je pense que c'est un peu plus compliqué, mais peut-être, cela dit, c'est en miroir, parce que c'est le prolo qui veut faire la révolution, qui aime justement, qui est animé par cette quête de l'idéal, alors que c'est la bourgeoise qui, elle, est préoccupée parce qu'elle va manger. Donc les choses sont inversées. Mais oui, enfin peut-être. Enfin bon, je pense qu'il ne faut pas être si simplet, mais j'aime bien l'échange à fleur et moucheté entre les deux, parce qu'ils sont, ils sont jamais sur la même longueur d'onde. Et puis effectivement, lui fait comprendre qu'en fait il veut pas d'elle, que justement comme ils viennent de faire des choses, ils viennent de se tripoter dans les toilettes, il fait comprendre que vraiment c'est trop possible en fait, elle est trop matérielle finalement, c'est pour ça aussi qu'il lui dit ça, et elle lui rétorque que ce qui compte quand même c'est les choses matérielles, et il y a quand même un substrat matériel dans l'amour, parce que je crois malgré tout que c'est une réflexion aussi sur l'amour, dans tous les sens du terme, enfin en tout cas, la quête qui anime mon héroïne, c'est quand même une quête stendhalienne de l'amour absolu comme défi, en fait, qui est considéré comme un défi, puisque c'est ça qu'elle s'est lancée, elle s'est lancée le défi de conquérir, en dépit des barrières sociales, quelqu'un qui appartient à un univers radicalement opposé au sien.
Voilà, bon alors moi peut-être, comme je raisonne au premier degré, que je suis peut-être un peu bête, c'est vrai que ça m'avait évoqué aussi, mais donnez-leur de la brioche. Voilà, ce truc complètement décalé, d'avoir des gens en bas pendant la Révolution française, qui ont une attente en fait, qui espèrent quelque chose, et la réponse qu'aurait donnée, parce qu'est-ce que c'était vrai, voilà, moi j'y étais pas, donc je peux pas savoir, mais qu'aurait donné Marie-Antoinette, c'est ils veulent du pain, donnez-leur de la brioche. Donc il y a un côté... pareil, d'avoir la bouche pleine, de manger de bonnes choses et tout, et de répondre de façon à côté de la plaque, aux attentes de
oui,
de
oui, l'autre. Oui, bien sûr, oui. Oui, cela dit, bien sûr, mais là, il est question de deux choses, en fait, dans cet échange, c'est-à-dire il est question de révolution, mais aussi d'amour, parce qu'il y a, oui. Y a les deux niveaux, en fait, de lecture. Et donc, finalement, aussi, donc la question se pose de savoir est-ce que la révolution est possible, mais est-ce que l'amour fou est possible aussi. Donc c'est aussi ça l'enjeu de cet échange. On voit bien qu'il y a un malentendu total.
Et puis il y a peut-être aussi quelque chose qui marche pas non plus, c'est de dire, bah là, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Voilà, elle veut cet homme, et puis voilà, peut-être que ça marche pas parce que c'est un désir féminin. Je sais pas.
Oui, c'est tout à fait. Effectivement, oui, ça intervient parce qu'elle se jette sur lui, en fait. Hein. Donc forcément, il y a aussi cette idée-là qu'il fait comprendre que plus de distance, ça aurait aidé peut-être à rendre des choses plus possibles. Mais en effet, oui, il y a une question sur la drague féminine, puisque la manière dont elle se comporte est au fond très masculine, en fait. Elle va droit au but. Et ça, en effet, c'est pas vraiment dans les attentes, dans les positions genrées, attendues, de la drague féminine. Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle... c'est son côté direct, en fait, qui, moi, m'amuse énormément. Enfin, moi, j'aime bien les gens... j'aime bien les gens qui se jettent des défis comme ça, un peu dingues, en fait, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, ça n'a pas de sens socialement. Au fond, enfin, je veux dire, pourquoi lui, c'est quand même précisément, c'est de prendre les choses à l'envers, en fait. Puisque normalement, les gens de son milieu à elle, elle aurait pu prendre elle est quand même très intello, donc elle aurait pu aussi séduire un intello, mais elle en avait un avant, et puis il est parti, puisqu'elle vient de divorcer aussi. Hein, donc, mais en effet, oui, ça pose des questions, des positions genrées dans la drague. Oui, c'est vrai que c'est quand même une question, parce que c'est aussi une des raisons, et peut-être la raison essentielle pour laquelle elle échoue dans sa position de séduction, c'est qu'elle elle va trop directement.
Quelle tristesse.
Bon, cela dit, entre-temps, quand même, je pense que le lecteur ne s'ennuie pas. Il partage des bons moments avec elle et avec d'autres à table. Oui, et qu'on rigole quand même, tout ça n'est pas très grave. Donc,
voilà,
elle aura certainement d'autres occasions aussi de réussir et d'atteindre ses buts à elle. Puisqu'elle en a plein aussi, elle a aussi des buts livresques, parce que c'est aussi, comme elle est écrivain, elle est aussi confrontée, en fait, il y a quand même une satire du monde du livre, en fait, du monde de l'édition. Il y a plusieurs portraits d'éditeurs qui sont quand même, je crois, assez gratinés, en tout cas que j'ai voulu gratiner, mais néanmoins appuyés sur des faits vécus et réels, sur des personnages existants, si je puis me permettre, je ne dirai pas les noms.
Oh, mais on les trouve sur votre site, hein, au besoin, si les gens sont curieux, ils peuvent aller sur votre site, je pense qu'il y a une indication déjà.
Oh, pas de tout, hein, pas de tout, parce qu'en fait, j'ai quand même beaucoup changé de maison d'édition. Parce que je suis en train de faire le compte et c'est énorme, en fait. J'ai compté récemment, je crois que j'ai dû, enfin, en France, enfin, disons, dans le monde francophone, j'ai aussi publié un livre dans une maison d'édition canadienne. Et j'ai dû publier dans une douzaine de maisons d'édition. Donc c'est absolument gigantesque. Ce qui fait que beaucoup d'auteurs mettent ils mettent la liste en fait des ouvrages publiés avec la maison d'édition en première page. Moi, je le fais jamais parce que ça donne l'impression d'un éclatement total. Et je me dis, mais ça va faire hyper bizarre si je mets tout. En plus, il y a des sujets différents. Donc je préfère épargner le lecteur, disons, en mode.
Voilà, vous n'étalez pas votre nomadisme éditorial.
Non, c'est du nomadisme, vous avez raison, c'est le mot juste, c'est du nomadisme éditorial. Et donc je pense que c'est peut-être pas la peine de frimer avec ça.
C'est quoi votre prochain défi, Corinne Meyer?
Alors mon prochain défi, je vais parler de mon prochain livre. Alors déjà mon prochain défi, c'est d'aller à Chalonne-sur-Loire ce week-end. Donc je prends un train demain et le train est à 6h du matin. Donc le prochain défi, ça va être demain matin de me lever à 5h. Oh là là. Donc c'est très concret en fait, c'est très quotidien. Et ensuite samedi à 14h, je suis invitée à participer enfin à un débat, une rencontre débat autour de mon livre à la médiathèque de Chalonne. Donc c'est à 14h et puisque, enfin, ou si par hasard des auditeurs nous écoutent, c'est donc le samedi 12 octobre. Et donc c'est le prochain défi, ça va être de répondre intelligemment aux questions qui me seront posées et d'essayer de séduire les Chalonnais. Sachant que Chalonne est quand même le lieu d'implantation du Lénine Café qui est mentionné dans le livre. Et c'est donc le dernier musée Lénine du monde. J'ai un doute, est-ce que c'est du monde ou d'Europe? Mais il me semble que c'est du monde, il n'y en a quasiment plus. Ou plus du tout. À un moment, il y en avait un en Finlande, mais je crois qu'il a disparu. Et donc, mon prochain défi, c'est d'aller au bord de la Loire et puis de voir des vins sublimes comme il y a au bord de la Loire. Donc, c'est un défi qui sera, je vais essayer de relever en levant le coude de façon déterminée.
Et alors, et un autre défi après cette rencontre au Lénine Café, est-ce que vous avez un autre livre en cours? Je ne sais pas, un projet de
voyage. Oui, alors j'en ai un en cours dont j'ai vaguement parlé tout à l'heure, enfin que j'ai évoqué. Ça sera donc un ouvrage sur l'éducation et qui donnera tous les trucs pour se débarrasser de ses grands enfants. Donc ce sera une satire de l'éducation positive et de toutes les choses qu'on nous dit, qu'on est censé penser sur les jeunes aujourd'hui et sur la difficulté des rapports entre parents et enfants.
Est-ce qu'il y a une musique qui vous semble être une bonne bande-son pour ce roman, à la conquête de l'homme rouge? Qu'est-ce que je pourrais diffuser comme pause musicale?
Oh ben, je pense que vous pouvez sans risque de vous tromper aller vers Bella Ciao de Maître Gims.
Bon, bah alors je diffuserai ça.
Puisque c'est donc une reprise d'un chant de partisans italiens et qui est donc un hymne à la Révolution et qui ressurgit puisque pendant des années on n'en écoutait plus et maintenant elle est sur toutes les lèvres. Je l'ai entendue dans le métro hier. Et donc, c'est redevenu à la mode, curieusement, donc c'est très bien. Et puis, donc vous pouvez la passer pour donner un avant-goût, comme ça, de la couleur rouge.
Parfait, comme ça, une fois n'est pas coutume, je serai à la mode, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Voilà.
Oui, ça vous ira très bien. Autant, avant de vous faire bouter hors du studio, j'apprécie beaucoup le mot qui est souvent considéré comme désuet. Mais il est très joli.
Voilà, j'ai vu que vous vous amusiez aussi beaucoup avec l'expression « prendre langue ». Ça apparaît deux ou trois fois dans le roman. J'ai trouvé ça très drôle aussi.
Oui, j'aime bien. C'est très désuet aussi, mais ça dit bien, ça dit beaucoup de choses.
Voilà.
Donc, prenons langue. Prendre langue, ça peut être manger aussi. Donc, je m'apprête dès demain à savourer les merveilles des bords de Loire.
Voilà, merci beaucoup. Corinne Meyer, pour le temps accordé pour Radio Campus Tours.
Ben merci beaucoup. Mmh.
la mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invasore.
Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes.
Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je l'ai fait pour toi, t'en prie pardonne-moi. Et à contre-cœur, oh bella ciao.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la la la. Je t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix.
J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Maître Gims chantant Bella Ciao, c'était le choix de Corinne Meyer pour terminer cette interview. Et moi, je vous dis rendez-vous demain. Et moi, je vous dis bonne journée à tous. Et n'oubliez pas que La Méridienne est rediffusée le soir à minuit. Bonne journée à tous à l'écoute de nos excellents programmes.